Bienvenue à tous. Avant le crime de minuit, quelques petites affaires troubles. Il y a du monde avec moi ce soir pour vous accueillir à Black & Blue. Françoise Cordet, réalisatrice de l'émission. Pierre Monteil, grand maître du son, des murmures et des échos. Georges Pagzinski, touriste de l'émission, agréé par le syndicat d'initiative depuis des temps immémoriaux. On le prendrait presque pour un autochtone. Et exceptionnellement ce soir, Elena Pagzinski, public trié sur le volet. Georges a lu l'histoire du piano de jazz en diagonale, mais en suivant un fil conducteur comme à sa bonne habitude. Quant à votre serviteur, il s'est intéressé au jazz vocal, et oui, c'est un homme qui apprécie qu'on lui roucoule à l'oreille. L'une des premières versions enregistrées du Night in Tunisia de Dizzy Gillespie le fut sous le titre beaucoup plus neutre qu'avait arboré cette pièce au début, Interlude, je le dis en français. Cette version en date du 31 décembre 1944 et à laquelle le trompettiste lui-même avait contribué était l'une des quatre plages qui ouvrent la discographie personnelle d'une chanteuse qui à ce moment-là, mais cela n'allait plus durer très longtemps, ne jouissait encore que d'une renommée très relative. Sarah Louise Vaughan, née dans le New Jersey en 1924 et que chacun connaîtrait bientôt sous son sobriquet, celui qu'on lui avait attribué dans le métier, Sassy l'effronté. Sassy l'effronté avait rencontré le tandem Dizzy et Bird au sein du grand orchestre d'Orleans qu'il avait engagé au mois d'avril 1943. J'ai eu, confiera-t-elle, beaucoup de chance de me retrouver dès mes débuts au milieu de musiciens de cette trempe. Le bebop était en train de naître, les gens nous regardaient un peu comme des bêtes curieuses parce que notre musique les désarçonnait. Avec le temps, néanmoins, ils ont fini par capter notre message. Moi, le bop, j'adorais ça. Chez Earline, c'était comme de suivre un cours supérieur dans une école de musique. Je n'avais pas besoin de fréquenter la Juilliard School, je me trouvais au cœur de l'action. Dizzy, sa musique me fascinait, toutes ces inventions mélodiques qui, en ce temps-là, paraissaient délirantes. Et Charlie Parker, quelle virtuosité, quelle maîtrise de l'instrument. Les notes sont en nombre limité dans la musique, mais à l'entendre, j'avais l'impression qu'il en ajoutait de nouvelles à la gamme. Ah, ces deux-là m'ont appris bien des choses, tant et tant de choses. Je les regardais, je les écoutais comme hallucinés. Billy Eckstein, l'autre vocaliste du Heinz Orchestra et moi, nous restions sur l'estrade pendant les morceaux sur lesquels nous n'avions pas à intervenir et nous swingions avec tout l'orchestre. Parfois, Dizzy n'y tenait plus, il quittait la section de trompette et venait me prendre par la main pour m'entraîner dans un jitterbug effréné. À mes yeux, cet orchestre n'avait rien d'une entreprise expérimentale. Ses membres jouaient la musique qui leur convenait, celle qu'ils ressentaient le mieux. Si le public suivait, bah tant mieux, sinon tant pis. Nous nous efforcions, alors même que nous étions censés jouer pour la danse, d'éduquer l'oreille du public. Une petite minorité pigeait vite, les autres venaient se planter devant nous et nous regardaient, les yeux ronds. Ça ne nous faisait du reste ni chaud ni froid, du moment que nous, nous nous régalions. Associé au mouvement bebop alors que celui-ci disposait à peine d'une vitrine, si l'on fait abstraction de ce qui se passait chez Earlines ou entre les murs du Minton's et du Monroe's, les rendez-vous new-yorkais des plus téméraires, des plus provocateurs parmi les jeunes jazzmen, associé à cette révolution musicale plus qu'aucune autre vocaliste, y compris elle-là, qui, soulignons-le, grande amie de Gillespie, appréciait fort la nouvelle musique, mais se trouvait moins à même d'en comprendre les tenants et aboutissants, Sarah s'abstiendra de très rares et très éphémères exceptions près d'en illustrer dans ses propres disques le côté le plus acrobatique, le plus impertinent, le plus querelleur, allant même jusqu'à réduire à la portion congrue le scat pour lequel son aînée, elle-là, avait et voulait avoir toutes les faiblesses. Après s'en être longtemps méfiée, elle aussi, si c'est encore un point d'histoire qu'il faut rappeler. En fait, le bop cascadeur, le bop à chandelle et à feu de Bengale fera défaut à l'ensemble de ses réalisations phonographiques jusqu'à l'ébouriffant Shulia Bop. étape qu'elle graverait à la tête de son propre trio en 1954, c'est-à-dire 10 ans après Interlude. Et 10 ans, quand on n'en a pas 30, cela représente vraiment un très long délai. Après ce tardif baptême, plus jamais elle n'hésiterait à prendre des risques en studio, à s'y affranchir de la pesanteur comme elle le faisait depuis déjà longtemps sur scène, en présence d'un public qu'elle savait mettre dans sa poche. Faut-il en induire que lorsqu'elle enregistrait, elle veillait à ne pas se couper d'un autre public, celui qu'on appelle « le grand », lequel, par chance, car il dispose du plus gros pouvoir d'achat sur le marché du disque, n'était pas tout à fait insensible à son talent. Or, chacun sait que ses goûts sont pour le moins frileux à ce public-là. Il convient de ménager sa sensibilité. Au demeurant, elle est fort susceptible. Ou bien alors, l'explication du phénomène réside-t-elle dans le fait que la chanteuse avait pris pour modèle son confrère, collègue et mentor Billy Eckstein, parangon des barytons onctueux? Quoi qu'il en fût, Sarah savait ce qu'elle faisait. Elle fut toujours une artiste lucide et même, en dépit de son naturel timide et du trac qui paralysait parfois ses efforts, une assez redoutable tacticienne du showbiz, à l'instar de Dizzy. Si elle s'adonnait dans la première partie de sa carrière au tempo lent ou médium lent, les préoccupations mercantiles de ses producteurs, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, n'y étaient pas pour grand-chose. Il est plus probable qu'elle-même avait estimé qu'à ce régime-là, au demeurant fort éprouvant pour d'autres, plus le tempo est lent, plus la tension psychique est forte si l'on veut conserver à l'interprétation un certain élan, un certain swing. Sans doute avait-elle estimé qu'à ce régime-là, elle respirait plus confortablement, contrôlait mieux sa diction et offrait aux nuances de son phrasé, comme à la subtilité de ses variations, de meilleures chances d'être perçue et éventuellement appréciées à leur juste valeur. Lorsqu'elle n'eut plus rien à prouver en ce domaine, tout naturellement, elle fit tanguer la barque. Et de quelle façon ? So we will be the yabum, we will be the yabum, be the yabum, be a. Say a day, a day, a day, a day, a boom, boom, baby, do be. Shabba, but it be, baby, do be. Shabba, but it be, baby, do be. I ain't mad at you, pretty baby, don't be mad at me. Shabba, do you do, boo, see you do be. Jean Malachi. Crazy Joe Benjamin. Roy Haynes. Sawa we do baby you Saba do ya do baby do baby do baby do baby you be how be do you be Sawa di hoo di hoo Sawi boobie do ya boobie do baby do baby boobie Sawa we do ba wa di u ba we u ba we u baby do baby do baby do baby do baby do ya Julia Bob en 1954, Sarah Vaughan, épaulée par ceux qu'elle présentait si bien, John Malachi, piano, Joe Benjamin, contrebasse, et Roy Haynes, batterie.
Mon cher Alain, après avoir entendu Roy Haynes. Quelle merveille d'entendre ce batteur à cette époque-là, sublime, magnifique. Alors écoutez, après Bill Evans Trio, après Kenny Werner et la maîtrise sans effort, après Enrico Piranesi et l'art du toucher et l'évocation du livre de Bertrand Hoth, Liszt et la pédagogie du piano, vous vous souvenez ce que nous avions évoqué, beaucoup de points sur la qualité du toucher, puis Fred Hirsch, l'art de la résonance, ensuite, l'art du silence avec Count Basie, Thelonious Monk, Ahmad Jamal, Paul Bley, John Lewis. Voici venu le temps, Alain, d'un autre temps, d'un temps de la profusion, le temps de l'abondance, le temps du débordement, de la démesure, le temps du flot ininterrompu, du déferlement des chutes du Niagara. Enfin bref, vous voyez ce que je veux dire, Alain, nous sommes très très loin de ce que nous avions évoqué précédemment. Et j'appellerai volontiers cette émission « Grandeur et misère de la virtuosité ». Vous avez bien vu où je veux vous emmener. Et mais d'abord, je crois que cette prouesse, cette perfection, ces sommets inimaginables, ces acrobaties au-dessus du vide sont impensables sans un disque que vous avez forcément, auquel vous ne pouvez pas ne pas penser. C'est celui que vous connaissez par cœur, Alain. Mais je vous invite à encore redécouvrir cette chose que nous connaissons depuis toujours.
Alors, sans une seconde d'hésitation, le célèbre tandem Art et Tintin en 1933.
Vous ne m'entendez pas celle-là.
Mais vous savez pourquoi je dis ça ? C'est pas du tout au hasard.
Oui, mais je m'en doute.
C'est une vieille histoire que raconte le violoniste, le regretté violoniste Stéphane Grappelli. Oui. Il se trouvait dans je ne sais trop quelle cité balnéaire au début des années 30, parce que je suppose pendant les mois d'été, il y jouait. Ça se faisait beaucoup dans les salons de thé. Des stations balnéaires, quand on était musicien professionnel, d'essayer de gagner un peu de sous pendant cette période-là, où le jazz, lui, n'était pas vraiment sur la brèche. Oui. Et il se reposait quelque part, peut-être sur la plage. Hein. Et puis, au bar de la plage, il y avait un gramophone, n'est-ce pas ? Et sur ce gramophone, voilà qu'on passe le disque que nous venons d'entendre. Oui. Et Stéphane, dont on sait qu'il fut pianiste lui-même, et bon pianiste d'ailleurs, dit, mais c'est pas possible. Il y a deux pianos là-dedans, c'est un duo de pianistes, et il s'adresse au barman Il lui dit, vous ne voudriez pas voir sur l'étiquette s'il n'y a pas de pianiste et de qui s'agit-il? Et le pianiste revient et dit, ah, monsieur Grappelli, vous avez raison, c'est Art et Tintin.
C'est une histoire magnifique, voilà. N'est-ce pas? C'est une histoire magnifique, c'est vrai. Il faut réécouter, Alain, vraiment. C'est extraordinaire, la main droite, cette main gauche, cette main droite, cette main gauche.
Précisons tout de même, Art et Tum. Hein,
Art et Tum, bien clair. Sûr, on est 21 mars 1933. Art et Tum, bien sûr, avec un Tiger Hag, 32 mesures, A, B, A', C, un véritable défi, une provocation, un morceau de bravoure s'il en est. Alors, on peut se poser la question, vraiment, il y a cette extraordinaire digitalité. Est-ce que c'est la preuve d'une angoisse fondamentale? Est-ce que c'est la preuve qu'il y a une présence de la peur? Est-ce que c'est la peur du trou noir? Est-ce la peur du silence? Est-ce que c'est vouloir combler pour combler? Ou est-ce que c'est un épanouissement extraordinaire de la personnalité qui explose littéralement, qui a besoin de beaucoup pour pouvoir s'exprimer? Je laisse l'appréciation, votre appréciation et votre idée sur la question.
Quand, vous voyez, quand on est mélomane, on est presque obligé d'aborder ce genre de musique avec des sentiments mélangés.
Absolument.
Moi, je vous dirais que et puis il est tard maintenant, donc on peut parler de façon un peu leste. Alors, je vous dirais que plus j'écoute cette musique, plus elle me laisse pantois,
oui.
Et plus je m'en fous complètement.
Ah, oui.
C'est-à-dire que, bon, ben voilà, j'assiste à un beau numéro, mais c'est bien parce que je suis là, mais je ne suis pas très sûr que je sortirai de chez moi pour assister au spectacle en question. Alors, il ne faut pas oublier l'époque à laquelle nous sommes. C'est le tout début de la carrière resplendissante de Tetum,
oui.
Notamment à New York, et cette carrière resplendissante, elle ne le fut pas toujours.
Oui.
Tetum, il avait commencé, un peu comme un de ses maîtres, James Pete Johnson, par oui. Accompagner des chanteuses de blues. Et c'est avec l'une d'elles, Adelaide Hall, qu'il était venu, vers 1927, je crois, à New York. Et là, il était allé se frotter aux fameux chasseurs d'ivoire de Harlem.
Ah, hein, voilà.
Les Lucky Roberts,
voilà.
Les Willie the Lion Smith,
voilà.
James Pete Johnson. Et que s'était-il passé? Eh bien, il s'est passé que ces gens-là l'avaient fait rouler en bas de la colline.
Hein. Oui,
il avait
exactement.
Voulu les rejoindre au sommet. Mais très vite, ces gens-là s'étaient débrouillés pour que l'on s'aperçoive que le petit jeune n'était pas encore à la hauteur.
Exactement.
Donc, il était reparti dans sa ville natale de Toledo.
Oui.
Et à Toledo, qu'avait-il fait? Ben, des gammes et d'autres exercices jusqu'à ce qu'il puisse revenir à New York et jouer ce Tiger Hag sur lequel aucun autre pianiste de jazz, en tout cas, n'était capable de le suivre.
Ça,
donc voilà. Donc si vous voulez, c'est un peu la signature d'une victoire qui est enfin, je les ai eues.
Oui,
et
ça.
Maintenant, bon, ben, on va pouvoir passer aux choses sérieuses maintenant que j'ai passé l'examen.
Voilà, c'est un côté terrible ce que vous dites, n'est-ce pas? Parce que en fait, il y a un problème très grand là, du point de vue de l'artiste. S'il ne sait pas jouer vite, on dit qu'il n'a pas de technique, entre guillemets. Si il ne joue que des tempos lents, bon, on va dire qu'il ne sait pas jouer vite. S'il joue que vite, on va lui dire, mais il ne sait pas jouer la lenteur. On ne peut plus être pianiste comme on était pianiste dans le temps. Il faut quand même un minimum dont la barre est extraordinairement haute. Donc, en fait, c'est à double tranchant, cette situation. Et vous avez raison de le souligner. N'est-ce pas vaincre? N'est-ce pas vouloir écraser? N'est-ce pas vouloir se rassasier, de combler, d'être dans une situation au bout du compte négative? Et en même temps, il y a quand même une sacrée admiration devant la performance. Et en même temps, cette performance nous éloigne peut-être du sentiment, de l'émotion elle-même en tant que telle, parce qu'on est subjugué par l'acrobatie. Et en même temps, on se dit, mais bon, après, qu'est-ce qu'il en reste, quoi? Voilà, ça, c'est très vrai.
Vous savez, je vais enfoncer une porte ouverte à cet endroit de notre conversation pour dire que si l'on parvient à dire des choses d'une intensité et d'une densité remarquables tout en jouant très vite, le fait de jouer très vite ne gâche rien. Mais
alors voilà, ça, c'est
l'expérience
vrai.
Nous apprend que malheureusement, lorsque ça commence à aller un peu plus vite que vite, à part Charlie Parker et un ou deux autres, il est très peu de gens qui parviennent à conserver une intensité, une densité de discours égale à celle qu'ils ont sur ce tempo que préfèrent beaucoup de jazzmen, c'est-à-dire le médium rapide,
le rapide médium.
Voilà.
Alors écoutez, je crois que vous avez dit les choses de fond et qui nous amènent vers le disque suivant. Et là, je vous propose une surprise, Alain. Découvert le carnaval des animaux de Saint-Saëns. Et là, Saint-Saëns, c'est un exemple très rare d'humour avec des moyens musicaux. Alors, simplement souligner que Saint-Saëns avait interdit le fait de jouer cette œuvre en public parce qu'il craignait pour sa réputation de musicien sérieux. Donc, il l'avait fait uniquement, il avait fait une audition en privé, devant Liszt, d'ailleurs, et il avait l'interdiction, bon, Liszt, je ne sais pas trop ce qu'il en a pensé, mais l'interdiction fut levée à la mort du compositeur. Alors, que se passe-t-il? C'est des portraits, que vous savez, il y a le lion, les poules, le coq, les mionnes, les tortues, l'éléphant, les kangourous, l'aquarium, le personnage à longues oreilles, le coucou, au fond des bois, la volière, et en 11e position, qu'est-ce qu'on voit? Pianiste, au pluriel. C'est-à-dire que pianiste, c'est un animal. Autrement dit, l'animal insupportable, c'est celui qui est insupportable pour tous les voisins, c'est je monte, je descends, je monte, je descends, je travaille les gammes, je descends, etc. Et là, c'est quand même bien vu. C'est-à-dire que le fait de travailler, d'exécuter, de manipuler, de monter, de descendre, fait que finalement, dans la rapidité, évidemment, il y a des exercices qui sont pas forcément fait comme ça pour obtenir la rapidité. Mais on y passe quand même, on passe par l'intermédiaire de ce genre de choses. Alors j'ai pensé vous faire plaisir avec ce carnaval des animaux et je me suis lancé en disant que à Black and Blue, je n'ai pas l'impression qu'on ait passé le carnaval des animaux.
Vous savez, j'ai remarqué une chose.
Pascal Roger, excusez-moi, le pianiste Pascal Roger et le London Sinfonietta, direction Charles Dutoit.
J'ai remarqué une chose, c'est que, paradoxalement, la vitesse et toutes les manifestations de virtuosité en général sont des attrape-gogo, c'est-à-dire destinées à éblouir le public. Et en même temps, dans le jazz notamment, c'est ce qui ferme la porte de communication entre la scène et la salle. Je dis ça pourquoi ? Pourquoi ? Parce que cette musique de jazz, n'oublions pas qu'elle était pendant très très longtemps, en fait jusqu'à l'arrivée du bebop, destinée en exclusivité aux danseurs.
Aux danseurs, bien entendu. Voilà. Donc on ne pouvait pas jouer.
Donc jouer très vite, c'était ça impossible. Rendait totalement à l'orchestre qui se serait spécialisé dans un jeu de ce type aurait très vite vu se fermer devant lui toutes les possibilités d'embauche.
Bien entendu.
Et au contraire, on cherchait des tempos qui soient adoptables par tous les guincheurs du monde, par tous ceux qui se présentaient. Donc c'est intéressant. Alors, peut-être finalement que la rapidité servait pour les interludes, pour ces moments où les gens ne dansaient plus, mais où il fallait quand même donner du grain à moudre, et où des artistes venaient pour, des funambules, des gens qui faisaient des sauts périlleux, qui
passaient
partout. Et si on n'avait pas ce type de gens à accompagner, pour certains ça supposait un accompagnement sur tempo rapide, il y avait peut-être un petit parti de musiciens qui, lui, jouait très vite. pour éblouir.
Alors, vous parlez de bebop, évidemment. Alors, c'est curieux, vous m'amenez sur le terrain sur lequel je souhaitais que nous allions ensemble. Parce que le pianiste que je vous propose maintenant, c'est le plus grand bopper. C'est celui qui est très connu, peut-être, par un enregistrement, qui est Just One of Those Things, de février 53. 64 mesures, A', B, A seconde. Et là, ça jaillit. Et là, il y a quelque chose de tout à fait particulier dans le cadre de la vitesse. Pour l'improvisation, c'est cette extraordinaire anticipation des mesures, d'anticiper les accords, de voir avant à une extraordinaire vitesse. Et là, ça devient vraiment un exercice très, très périlleux qui est toujours à la limite de la rupture. C'est-à-dire que lorsque un pianiste classique joue quelque chose qui est écrit, n'est-ce pas ? Il a le problème de l'exécution en tant que tel, donc un investissement physique considérable. Mais il a un appui, il a le texte qui est devant lui, sur lequel nous avons vu Georges Plaudermacher qui évoquait qu'il improvisait quand il jouait Debussy, parce que les plages de respiration sont toujours différentes. Il n'empêche que quand même, le texte est là. Mais quand il s'agit d'improviser à très très grande vitesse, comme ça jaillit chez Parker, comme ça jaillit chez Scott LaFaro par exemple, ou chez Clifford Brown, si on vous disait qu'il n'y en avait pas beaucoup qui pouvaient faire ça, le fait que ça jaillisse, il y a un pianiste chez qui ça jaillit d'une façon extraordinaire, c'est Bud Powell. Et là, cet enregistrement est tout à fait étonnant parce qu'on a l'impression, c'est piano solo, on a l'impression qu'il y a un batteur et un contrebassiste, il fait tout, quoi. Il est l'homme orchestre et il anticipe à la limite du possible. C'est-à-dire que ça va tellement vite et que cette anticipation est tellement folle qu'on se demande comment, par miracle, il arrive à conclure une phrase, puis une autre, et on sent qu'à des moments, on sent qu'il est sur le fil, quoi. Et ça devient absolument incroyable. Alors là, est-ce la prouesse qui provoque chez moi l'admiration, ou est-ce autre chose ? C'est le travail intérieur du musicien. Cette espèce d'extraordinaire concentration intérieure qui, moi, à nouveau, me fascine, comme la lenteur me fascine, qui demande le même type de concentration. Vous voyez, ce qui est pour moi tout à fait capital, c'est cette intériorisation du son et cette anticipation du son bien rond, bien plein, quelle qu'en soit la vitesse d'exécution. Thank you.
Bud Powell en 1953, Just One of Those Things. Tout ça fait naître en moi un sentiment assez particulier, enfin une idée. Je me demande si vous allez être d'accord avec moi.
Oui.
J'ai l'impression qu'on assiste là à un véritable renversement des valeurs. N'importe quel pédagogue, et vous en êtes un vous-même, qu'il s'agisse de pédagogue de musique en général ou de pratique instrumentale en particulier, vous dira qu'il ne convient pas, en présence de quelque technique que ce soit cette technique qui vous joue. Eh bien, j'ai l'impression qu'avec la grande vitesse, c'est un peu le contraire. Que tant que vous essayez de la jouer, eh bien, il vous arrive les petits problèmes qu'il arrive à Bud Powell lui-même dans l'exposé du thème. C'est-à-dire que de temps en temps, on n'est plus en place, il n'accroche pas, mais bon, parce qu'il se rattrape aux branches.
Absolument.
À la nuit. Bon, avec grandeur et noblesse, là n'est pas la question.
Oui.
Je pense que tant qu'on l'on joue la vitesse, ça coince. En fait, il faut que la vitesse vous joue précisément, c'est-à-dire que vous vous posiez sur elle le plus légèrement possible et que vous vous laissiez entraîner par elle. Et à partir de ce moment-là, ça fonctionne. Et il me paraît très clair que c'est à partir du moment où il improvise, c'est-à-dire où il est entre lui-même, et non plus entre lui-même et un texte de Cole Porter, que ça commence à fonctionner vraiment. Et moi, dans cette pièce-là, pour la nommer chef-d'œuvre, je n'en retiendrai que les derniers 75%, parce que les premiers 25%, ça ne me paraît pas atteindre à la perfection, loin de là.
Je ne peux pas vous donner tort, Alain. Je crois même qu'il y a une sorte d'urgence à vivre dans ce que nous entendons. Et ça va bien au-delà. Souvenez-vous, nous avions connu Francis Podras qui s'était occupé de lui. Moi-même, j'avais répété chez lui avec Freddy Redd sur le piano. Bud jouait, il était pas là ce jour-là. Mais c'était assez terrifiant de voir la conséquence de tout ce qui s'est passé ensuite pour Francis Podras. Et en fait, Bud, moi je me souviens très bien avoir été assis à côté de lui au Blue Note. J'ai une masse énorme, j'étais assis. Ah, je suis assis à côté de Bud, vous voyez, l'effet que ça m'a fait. Et puis Bud est allé jouer comme... complètement dans, c'est dans une sorte de nuage, de complètement dans un cirage presque, j'allais dire. Et il jouait, il n'y avait qu'à ça, quoi. Et Francis appuyait sur le bouton quand il était seul chez lui, il laissait faire. Il y a des kilomètres de bandes probablement qui n'ont jamais été éditées, ouais. Donc c'est quelqu'un à jet continu, à des moments il expérimente, vous voyez. C'est-à-dire, en fait, c'est continuellement jouer, continuellement expérimenter, continuellement reculer les limites du possible, vouloir vivre, en fait. C'était, je sais pas, c'est s'obstiner à vouloir renaître sans arrêt et à renaître peut-être lentement dans la vitesse. Vous voyez, parce qu'on est dans l'urgence. Alors, vous voyez, il y a non seulement le problème proprement technique, mais il y a tout ce qu'il y a derrière. Toute l'angoisse que ça véhicule, toute la crainte de la vie, toute la peur de la vie, et en même temps, toute une sorte de transcender l'existence par la même occasion, par l'acte créateur en tant que tel, par l'investissement aussi bien mental que physique. Vous voyez, une sorte de peut-être de suicide au bout du compte, vous voyez.
Vous savez que la musique, c'est une chose arithmétiquement assez simple. Parce que finalement, pour faire la liaison avec la précédente émission que nous avons eu le plaisir de faire ensemble il y a quelques semaines,
oui.
Lorsque vous jouez comme Cambesi ou comme Ahmad Jamal, une note, là où il pourrait y en avoir 12,
oui.
Ça ne fonctionne que si dans cette note, il y a l'intégralité du discours que tiendraient les 12.
Absolument.
Et s'il y a le poids de ces 12 notes. Et inversement, lorsque vous jouez 12 notes, là où il pourrait très bien n'y en avoir qu'une, ça ne fonctionne que si chacune de ces 12 notes est une note égale en intensité, en richesse, en résonance, à la note qui serait toute seule.
En fait, vous venez de dire les choses avec un sens de la propos, parce qu'en fait, c'est habiter les notes, toutes les notes. On peut jouer très vite en habitant peut-être.
Mais parce
une
que
note
le mauvais musicien, le musicien médiocre qui joue vite, il joue vite pour oublier qu'il ne saurait pas jouer bien
alors,
lentement.
Voilà, c'est ça. Alors, peut-être que là, il faudrait chercher du côté de l'étymologie du mot virtuose. Là, ça devient beaucoup plus intéressant. imaginez. Ça vient de l'italien virtuoso et du mot, alors là ça devient intéressant, du mot virtu, qui veut dire énergie, qualité, du latin virtus, vertu, force, mérite, et dans un sens où il y a une extrême énergie qui est associée à des capacités exceptionnelles. Et il y a un ouvrage, apparemment c'est éloigné de notre sujet. J'avais mon professeur de philosophie qui s'appelait Bernard Guillemin, qui avait travaillé avec Raymond Aron sur Machiavel et l'anthropologie politique. Et il avait fait un développement sur la virtu dans son doctorat d'État magnifique, où il évoquait justement la mise en jeu d'une énergie vitale en citant Moïse, Cyrus et Romulus, c'est-à-dire d'immenses fondateurs. Mmh. Eh bien, je pense que la notion de fondateur, dans les fondements de la musique, il y a des principes fondateurs qui sont ceux que vous évoquez, indépendamment de la rapidité, indépendamment du tempo lent ou vif, mais il y a la qualité du niveau d'énergie, la qualité du niveau de la capacité exceptionnelle. Et là, on dépasse quelque chose où l'homme est surpassé. Et là, on est, c'est curieusement à remarquer que, en fait, il y a la ruse du renard qui est associée à la force du lion. Vous voyez, il y a une sorte de passage, vous voyez, qui est fascinant.
Non, ce qui est étonnant, c'est que tout ça soit moralement lié à l'idée de courage.
De courage.
De courage. Parce que le virtuose à l'italienne, c'est aussi celui à qui l'on dit bravo.
Voilà. Alors, vous me renvoyez là-bas.
C'est-à-dire comme vous êtes brave, en fait. Hein, oui, c'est ça, et brave au sens du courage, précisément.
Alors, pour illustrer ça, j'ai choisi une pièce qui est en fait une fin de morceau. On me pardonnera d'avoir coupé le morceau dure assez longtemps, et nous en parlons après, je vous explique pourquoi. Thank you. Funérailles, Liszt, Horowitz, 29 décembre 1950. Pourquoi ai-je choisi ça? J'ai un de mes anciens étudiants qui est devenu organiste titulaire des grandes orgues historiques Zeiger de la cathédrale métropole Saint-François de Sales à Chambéry. Il s'appelle Brice Montagnoux. Et un jour, il m'a invité, il m'a dit « Est-ce que vous voudriez bien venir à la répétition et au récital que je fais à Notre-Dame de Paris ?» Je fais la répétition tout seul. Venez à 20h. Je vais à 20h. On nous attend sur le côté de Notre-Dame de Paris. On nous emmène par les petits escaliers. Et je suis avec lui et avec une personne qui est chargée de tourner les pages. Dans Notre-Dame de Paris, noir, personne, quelques lumières. Et voilà mon étudiant qui joue funérailles à l'orgue avec les sextolets aux pieds. J'avais une transcription qui n'existe pas, qui n'a pas été éditée. Et là, j'ai ébranlé, vous imaginez, Notre-Dame, vide, avec cette immense puissance d'exécution. Et là, je me suis dit qu'il y a tout à fait autre chose derrière la virtuosité. Derrière le fait de la bravoure, il y a une sorte de confrontation entre l'ange et le démon. Et j'étais en plus dans un lieu saint, donc entre la vie et la mort, entre le surnaturel, le divin et le démoniaque. Et que j'avais le sentiment de vivre une expérience tout à fait exceptionnelle. Et c'est là peut-être que je me suis dit que finalement la vitesse avait non pas la vitesse pour la vitesse, mais avait une sorte de tragique dans la géniale solitude d'un héros finalement qui va forcément mourir. Et donc la virtuosité qui est en quelque sorte un conflit entre la tension, une idée musicale, un instrument, et la solitude dans cette église qui absolument me donnait une notion de précipice, de rupture et au bord du suicide. D'ailleurs, Liszt, à la fin de sa vie, c'est très curieux, a abandonné la rapidité pour jouer, par exemple, Nuages gris, les dernières œuvres pour piano sont des œuvres où il veut plus jouer vite. Alors là, je me suis dit...
On dirait la même chose de Django Reinhardt.
Et alors voilà, alors je
n'étais pas pianiste, mais...
Voilà, alors on pourrait faire le parallèle, et c'est pour ça que je voulais faire ce rapprochement avec les musiciens classiques, c'est qu'en fait, on trouve tout, dans toutes les musiques, on trouve le même problème.
Vous savez, si le courage... auquel nous faisions allusion il y a quelques minutes, et celui, ça semble assez évident, d'affronter ses limites,
oui,
ou d'affronter les limites que les autres ont posées. Je pense à Artetum n'arrivant pas, en sa jeunesse, à aller aussi loin que les gens qu'il admirait, hein,
oui,
grand
oui,
maître
oui,
new-yorkais.
Oui.
Donc si le courage consiste à affronter... ce qui est censé être vos limites, il est aussi celui d'affronter les dieux qui ne permettent pas, en principe, aux hommes de franchir les limites qu'eux-mêmes leur ont imposées.
Absolument.
Alors, oui, on retourne à...
Voilà, alors...
Jaunet, auquel vous faisiez allusion il y a quelques instants.
Alors, imaginez-vous que si on regarde maintenant un concert de jazz... Il y a des ballades, il y a des morceaux médiums, des morceaux très vifs. Et si on considère ça comme une œuvre complète, un concert, une seule œuvre, et non pas des morceaux séparés, on se trouve souvent devant la vision que je veux, okay, que toute l'œuvre de Liszt est un peu comme ça. La sonate en si mineur, on aurait pu choisir d'autres choses. Ou la sonate funèbre de Chopin, la dernière. La sonate funèbre de Chopin, à la fin, c'est uniquement du vent au-dessus des tombes, n'est-ce pas? Et là, on a quoi? Dans Liszt, dans toute l'œuvre de Liszt, il y a toujours les quatre états de conscience qui sont l'état de conscience du Faust de Goethe, c'est-à-dire un chant funèbre, un chant d'amour, la tempête et le combat, et après une vision de la transcendance. Et ces quatre moments-là, on les a, depuis ça a commencé avec cette technique-là, toute l'évolution de la rapidité vient de Paganini, alors, mais cette notion de progression fait qu'en fait la rapidité est une conclusion. Une conclusion, mais qui n'aboutit pas complètement, mais qui est juste pour les prémices vers la transcendance, vers la lenteur, avec une préparation au départ.
Vous y faisiez allusion, là, il y a quelques secondes, mais est-ce que une des difficultés dans le jazz, je change un peu de sujet,
oui, oui.
Ne vient pas justement du fait qu'il est, à partir d'un certain niveau de maîtrise, assez difficile, en fait, de maintenir cette disparité des tempos. Parce que ce qu'on vous apprend,
oui,
c'est finalement à jouer vite quand le tempo est lent et à jouer lentement dans votre tête, j'entends, quand le tempo s'accélère. Et d'une certaine manière, on devient, Je veux dire, le tempo n'a plus d'importance.
Absolument. J'aurais pu, toujours dans le même ordre d'idée, il y a la notion de rapidité du nombre de notes, mais il faut donner l'impression de lenteur. Il y avait un exemple qui est magnifique, j'aurais pu choisir, où dans un prélude de Rachmaninoff, vous avez Richter, où la main droite est fulgurante, et la main gauche joue des rondes liées très lentes. Et en fait, on a l'impression de lenteur, alors que le tempo est absolument infernal. Donc en fait, tout ça, ça dépend de la manière dont on conçoit. Ce n'est pas au kilo de notes, vous voyez. Ça peut être une densité extraordinaire et une impression de lenteur, alors qu'il y a j'allais presque dire des milliers de notes. Mais tout dépend quand on les vit, comment on les présente aux gens. C'est là où ça devient fascinant, c'est la manière dont on les présente aux gens. Alors, je vois ma fille qui est là, qui nous regarde, se dit, mais de quoi parle-t-on? Et finalement, alors, on va aller maintenant dans un endroit qu'elle connaît bien, parce qu'elle écoute beaucoup de jazz à la maison, et écoutez maintenant ce blues étude. Nous sommes en 1973, Alain. C'est un disque que vous m'avez offert il y a quelques années. C'est au London House à Chicago. Vous allez reconnaître ça tout de suite. Thank you. Éblouissant, Alain, éblouissant, n'est-ce pas, là.
Oui, oui, Oscar Peterson, Nils Henninger, Chet Peterson et Joe Pass. Ça fait déjà deux grands musiciens qui nous ont quittés au sein de ce trio, plus un Oscar qui est diminué, hein,
mais oui, très,
à la fois
très.
NHOP et Joe Pass il y a un certain temps.
Oui.
NHOP, je crois que c'était l'année dernière.
Oui, il y a peu de temps.
Très peu de temps.
Oui.
Ce qui est intéressant, lorsque trois musiciens opèrent des échanges sur un tempo comme celui-là, c'est qu'on pourrait presque dire que d'une certaine manière, chacun d'eux joue encore trois fois plus vite parce que chacun joue avec la vitesse des autres.
Mais bien sûr, hein, bien sûr.
Il doit avoir dans la tête la vitesse des autres pour avoir quelque chance de dialoguer avec l'un d'eux.
Et en même temps, être extraordinairement détendu devant la vitesse. Vous voyez, il y a aussi ça. Donner l'impression d'aisance, de ne pas faire sentir qu'on joue vite, ne pas faire sentir la vitesse. Ça, c'est le grand art, en fait. Et à ce moment-là, on peut rêver. Et alors, en fait, en repensant à Oscar Peterson, j'ai retrouvé un proverbe chinois qui dit « Il faut faire vite ce qui ne presse pas pour pouvoir faire lentement ce qui presse. » C'est pas prendre le temps pour jouer vite. Ça, c'est grand art. Alors, voyez, Alain, nous, il y a quand même un pianiste qu'il faut citer aussi, qui est une merveille. Si nous avons écouté, il faut citer Marcel Solal parmi les pianistes et grands virtuoses. Mais il y en a un autre qui était au bord de la rupture et qui, effectivement, a basculé du côté de la rupture. C'est Phineas Newborn. Et nous allons terminer cette émission avec Phineas Newborn. Mais cette notion de vitesse et cette notion de lenteur, c'est un peu toute la misère du monde où il y a la peur, l'extase, il y a la colère, le désespoir, il y a les états d'âme. Et finalement, j'ai pensé cette fois, j'ai une vision en ce qui concerne une œuvre qui est une sorte de musique pétrifiée, qui est une musique qui est un retable qui se trouve à Cracovie dans l'église Notre-Dame. Et il y a ces Wittstwoch, qui est en allemand, c'est Weitstoss, qui est un maître sculpteur, qui a créé un chef-d'œuvre de la sculpture à la fin de l'époque gothique, au XVe siècle, où il y a un retable sublime, absolument sublime. Et on a l'impression que quand on regarde ça, on est en présence d'une musique complètement pétrifiée, immobile, et qui, en vous, est totalement explosante. C'est-à-dire une vaste contemplation qui plonge le spectateur dans une profonde méditation.
Sur le point précis de la dialectique entre rapidité d'exécution et lenteur d'inspiration, dirais-je, pour aller vite, j'attire l'attention de nos auditeurs sur un point précis, c'est que en matière de batterie, hein, pour passer à autre chose, lorsqu'on veut aller lentement, c'est là qu'on se met à rouler plus vite.
J'aime
bien. Remarqué qu'il faut rouler, il faut rouler plus vite quand on veut faire de ces superbes roulements qui font Ben, il faut rouler plus vite. Il faut rouler plus vite. Et c'est grâce à ça qu'on peut les jouer sur des valses lentes et sur des voilà.
Alors, écoutez, maintenant, ce Phineas Newborn, c'est What's New. C'est un morceau qui m'est cher, parce qu'il y a une sorte de... Cet homme qui est... Vous savez, cette scène encore terrifiante, un de ses derniers concerts, c'était à Boulogne-Billancourt, j'étais dans la salle à, je sais pas, 20 mètres de lui. Concert en trio, il joue. Magnifique introduction, avec un toucher. Magnifique. Et au fur et à mesure, les minutes passent. Le trio n'arrive plus à jouer ensemble. Et l'homme devant les spectateurs intellectuellement s'effondre, quoi.
Oui, il a fait la le même trio. Chose à Montréal, hein, je vous signale.
Ah bon?
J'étais
et là,
présent.
Et vous étiez là. Alors, le batteur et le contrebassiste arrêtent de jouer. Et cet homme sublime sur le plan, qui est à l'égal de tous ces grands pianistes que nous évoquons, tout à coup, c'est pratiquement dans la pensée et physiquement devant le piano. Il s'effondre, quoi. On l'a sorti, on est venu le chercher. Et on l'a emmené dans les coulisses. Je suis sorti profondément, mais choqué, bouleversé à un point. Mais dit peut-être que la vie, c'est aussi ça.
What's new? Quoi de neuf? Molière, répondait Guitry. L'esprit du blues aurait pu dire Finest Newborn, l'esprit d'inquiétude et l'esprit d'enchantement. Françoise Cordet, Pierre Monteil, Georges Pagzinski et Elena se joignent à moi pour vous souhaiter un heureux lundi. Il sera là dans une poignée de secondes. À dimanche prochain.